Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode consacré aux femmes et à la musique et au rock féminin en particulier. Donc autour de la table, il y a toujours Christophe.
Bonjour.
De la Roxette, Véro.
Bonjour.
Et Timo.
The first time I met the blues.
Et moi,
Emilior.
Voilà. Emilior. Et donc, alors pour ce deuxième épisode, on s'intéresse aux All Females Band. Christophe.
Alors là, on fait par rapport au numéro 1, on va faire un bond dans le temps. On va arriver milieu des années 50, milieu des années 60 en priorité. Donc, on ne peut pas parler des All Female Band sans parler des girl groups, qui était la chose la plus connue à la fin des années 50, lorsque le rock'n'roll a fait son apparition avec les gars comme Elvis, Eddie Cochrane, tout ça, où les adolescentes ont commencé à exprimer leur admiration, leurs besoins d'adolescentes. Et donc, tout de suite, les producteurs, la music business a tout de suite compris qu'il y avait un argent important à se faire sur ce sujet. Des producteurs très intéressés, notamment le plus connu de l'époque, Phil Spector, qui avait constitué une écurie de groupes comme les Supremes, comme les Crystals, et qui s'est fait vraiment des valises d'or.
Et des groupes uniquement féminins, quoi.
Uniquement des groupes.
Chanteuses, musiciennes.
Des chanteuses.
Non, des chanteuses.
Au début, chanteuses, d'accord.
Tout ça, c'était des mini-chorales, en fait. Surtout, elles étaient parfaitement dévouées à ces producteurs. Elles devaient vraiment répondre à un rôle précis et elles ne devaient pas s'écarter. Phil Spector est notamment très connu pour ses épisodes avec ses flingues
menaçant, quoi.
Ouais, voilà, c'était l'expression vraiment très masculine et c'était la projection de fantasmes masculins. Et à partir de là. Eh bien, on va le voir après avoir écouté notamment la chanson très connue des Supremes, Baby Love. Les choses ont commencé à changer et il y a des filles qui trouvaient cette musique sûrement très intéressante, mais qui ont voulu s'émanciper de ce rôle un peu primaire des méchants producteurs. Et on va voir ça après avec les Shangri-Las et compagnie. Et ça a évolué au fil du temps pour dériver après sur le girl group. Riot Girls, dont on finira avec toi, Thibaut.
Okay.
Donc, je vous propose d'écouter Baby Love pour écouter un petit peu le côté gentil. Et on peut souligner quand même que Baby Love, dedans, il y avait Diana Ross. Et Diana Ross, au bout d'un moment, elle en avait aussi ras la cafetière.
Elle a foutu le camp.
Et elle s'est barrée et puis elle s'est affirmée en tant que meneuse de groupe.
Un petit peu de sucre pour commencer.
Alors, un petit peu de sucre.
Oh,
alors dans le sucré avec les Shangri-Las. Donc
les Shangri-Las, c'est pas mal des fois le sucré quand même, c'est agréable.
Non, hein. Mais moi j'aime bien, hein, franchement.
Ouais. Bon,
non,
il fallait.
Non, je dis pas ça.
Il fallait être docile. Il fallait être sage, ouais. Il fallait bien écouter Monsieur Spector avec son flingue, mais après, en production,
bon,
ça, ça donne.
Recettes,
Et puis ça dure dans le temps, puisque tu peux pas passer un hit parade rétro sans passer des titres de cette période Spector. Hein.
Et donc, ce groupe de filles, elles sont quatre. Hein,
les Shangri-Las.
Voilà, les Shangri-Las. Donc, c'est un groupe féminin des années 60. Elles se rencontrent au lycée et puis elles vont collaborer avec des gens tels que Dusty Springfield, les Beatles, James Brown.
Ah oui. On peut dire
c'est
que
c'est quand même pas rien, quoi.
Ouais, elles collaborent, enfin elles font leur première partie, c'est ça quand ils sont en concert. Donc on peut dire que d'entrée de jeu, ils sont quand même introduits dans un milieu de.
Ça les met en avant, ça,
ah
c'est
bah,
sûr.
Ouais, c'est pas le petit groupe d'université qui reste chez lui. Ils sont propulsés. C'est un groupe qui a vraiment beaucoup de succès.
Et ça va assez vite en plus, hein, entre le moment où elles.
Et souvent, ces girl groups sont quand même très éphémères. Ça dure 3-4 ans.
Voilà.
Et puis bah, on arrive à des problèmes aussi par rapport notamment au mariage, où bah, dès l'instant où elles sont mariées, bah, elles sont dans le move quand même, et puis bah, elles arrêtent parce qu'il y a les enfants, parce que voilà, qu'elles soient au début de la contestation, néanmoins elles rentrent dans le modèle classique assez rapidement.
Ouais, mais ça ressemble quand même pas mal aux boys band et girls band des années 90, où ça marchait pendant une année ou deux, enfin c'est les mêmes recettes quoi.
C'est un produit marketing, si on veut être méchant, enfin, c'est un peu l'idée.
Là, ce qu'on peut dire avec les Shangri-Las, c'est qu'elles se démarquent des girl groups dont on a parlé tout à l'heure, elles répondent pas systématiquement, dans leurs chansons elles abordent des sujets qui sont loin de la ritournelle romantique, puisqu'elles abordent le sujet du viol. Elles se mettent en noir, tu vois, c'est un peu esprit Tarantino là. Il y a du cuir, on n'est pas sur les couettes, les chaussettes blanches. Donc là, il y a une première incursion qui fait que les choses aussi bougent et tout ce qui était mouvance adolescente, groupies, ça commence à diverger.
Ouais. Et effectivement, elles disparaissent assez rapidement.
Voilà.
C'est éphémère.
Bah,
hein.
ça fait des hits et puis après, ça passe.
On va écouter un petit morceau tout de suite. Wishing Well.
Yes.
Shangri-Las, Wishing Well, et puis là on enquille avec Goldie and the Gingerbreads. Alors c'est un groupe des années 60. Encore une fois, Goldie, c'est un peu la meneuse du groupe. Elle forme justement des groupes quand elle est au lycée. Et puis après, elle finit, elle chante hein, plutôt, et puis elle tombe sur une nana qui joue de la batterie, Ginger, d'où en fait le nom du groupe Goldie and the Gingerbreads. Alors en fait, c'est un groupe qui est composé de 4 membres.
Et là, ce qu'il y a de bien,
3 musiciennes et une chanteuse.
Là, c'est des musiciennes et une chanteuse, et non plus simplement des chanteuses.
Exactement. Ouais, tout à fait. Et en fait, alors elles font du rock principalement. Le sommet, enfin, elles Elles aussi, elles sont un peu éphémères, hein, 5 ans. Voilà, on a peut-être un ouais. peu plus long que les Shangri-Las, mais
ouais, c'est très éphémère quand même. Hein.
Exactement, ouais, 5 ans de carrière, on va dire ça comme ça. Et en fait, elles sont américaines. Goldie, la meneuse, elle est new-yorkaise, mais en fait, là, elles seront connues majoritairement en Angleterre.
Lorsqu'elles ont fait, elles ont accompagné les tournées des Rolling Stones, notamment.
Et d'ailleurs, elles sont arrivées auprès des Rolling Stones grâce à Eric Burdon and the Animals, qui les ont repérées. Alors on dit, bon allez, nous on fait une tournée, est-ce que vous voulez venir? Et donc c'est là qu'elles ont pu mettre le pied en Angleterre et être.
Mais là,
quoi.
Encore comme les Shangri-La juste avant, je trouve ça assez exceptionnel, des gens pratiquement inconnus et qui soient détectés comme ça par des noms qui étaient vraiment très émergents à ce moment-là, années 64, 65, 66, et hop, on les propulse directement sur la scène et ils ont cette espèce de parrainage. Et voire même, là, on lisait que tous ces girl groups avaient vraiment beaucoup influencé les groupes comme les Beatles dans un premier temps et qui ont puisé dans ce répertoire de chansons romantiques.
Est-ce qu'il
n'y avait
pas l'idée aussi de faire venir un public féminin en les mettant en première partie
Je ne sais pas si les jeunes filles suivaient ces groupes de jeunes filles. Je sais pas s'il y avait
féminiser l'audience.
Ouais. Je ne sais pas si les jeunes filles préféraient aller voir des jeunes filles chanter ou des jeunes garçons chanter aussi. Je sais pas si elles préféraient s'extasier devant Goldies plutôt que devant McCartney, par exemple.
D'accord.
Je ne sais pas. C'est une question. Il faudrait poser ça à nos grand-mères.
Ouais.
Anglaises,
évidemment.
Et donc Goldie and the Gingerbreads, elles ont en 2011, elles ont quand même été reconnues au Hall of Fame, la Rock and Roll Hall of Fame. Donc,
c'est pas rien, ça.
Exactement. Et donc, voilà, c'est pour prouver que ce groupe-là a vraiment... et on voulait reconnaître aussi le fait qu'elles avaient impulsé une tendance nouvelle dans l'industrie de la musique à cette époque-là, voilà, en prenant les choses en main, en étant uniquement un groupe de filles avec des musiciennes et une chanteuse.
Et musicalement, on peut, sur le morceau qu'on va écouter...
Please.
On s'aperçoit que musicalement, c'est quand même différent de la chanson type Phil Spector, avec les choristes, machin. Là, musicalement, il y a du corps. On n'en est pas encore à quelque chose de hard, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus rocailleux, plus tout terrain, quoi.
Bah, elles sont dans les temps, quoi, par rapport à ça.
Toi, ça peut annoncer aussi des choses qui vont arriver après 67, 68, là où ça va devenir plus
rock and roll,
plus nerveux. Donc c'est parti, on écoute Please, Please de Goldie and the Gingerbread. C'est un morceau de 1965.
Come on, baby. Get on your knees.
Get on your knees,
get on your knees.
Please,
come on and get on your knees,
baby,
yeah. Get on.
c'était pas mal ce morceau. C'est vrai que ça changeait des Shangri-Las, Please Please de Goldie and the Gingerbreads. Et là, on
est sur une autre tonalité quand même.
Bah oui, carrément.
Et bah après, on continue de marcher, de monter les marches dans la résistance féminine au pouvoir masculin dans la production musicale. Et on peut parler d'un groupe qui s'appelle Ace of Cups, qui est américain aussi. Et ces jeunes filles, au nombre de 4, elles, vraiment, non seulement elles étaient musiciennes, il y avait une chanteuse, mais c'est elles qui écrivaient leurs textes, elles avaient une manageuse. Donc c'était le pouvoir féminin qui voulait se mettre en action, et elles luttaient contre cette domination masculine qu'elles ne pouvaient pas supporter. Et y a pas beaucoup de choses à dire parce que leur carrière a été aussi relativement courte, mais elles se sont beaucoup inspirées des mouvements californiens milieu des années 60 qui étaient très revendicatifs, et eux, ils prenaient une large part dans ces actions.
Américaines alors.
Américaines, américaines. Et simplement aussi pour illustrer un peu ces dames étaient... vraiment dans le creuset californien. Un gars comme Jimi Hendrix les a tout de suite acceptés, leur a demandé de venir sur scène avec lui. Ça sera mieux comme ça, avec lui. Et, elles ont pu vraiment s'exprimer. Et après, le succès n'a pas été florissant. Et puis, pareil, ce groupe s'est éteint. Et puis, un groupe de plus qui a profité d'une vague, et la vague s'étant arrêtée, y a pas possibilité de surfer. Et donc, on va s'écouter un petit titre de Ace of Cups.
Donc, c'est Boy, What Will You Then?
Yes. Le titre que Melior va nous rappeler.
Boy, what will you then?
Yeah. Et donc, ce qu'on peut dire aussi vite fait, c'est que la manageuse était manageuse, mais en plus, elle aimait beaucoup l'astrologie. Et donc, le nom de ce groupe provient des qualités astrologiques de la manageuse, qui est Ace of Cups, une carte de tarot pour tirer l'avenir. Mmh. Et donc, en tirant l'avenir, elle n'a pas vu que ça allait être très...
elle a arrêté, je pense.
qu'elle avait vu justement.
Alors, on peut continuer à monter un peu les marches dans la radicalisation. Et alors là, on fait un saut dans le temps volontairement, même si c'est pas un groupe de la même période. On passe au début des années 90 sur un groupe qui s'appelle Bikini Kill.
Ouais, Bikini Kill, donc un groupe punk rock, donc créé en octobre 90. À Washington, considéré comme précurseur du mouvement Riot Girl.
Voilà. Dans
l'État de Washington, excusez-moi. Ouais. Et donc, notamment un groupe qui avait des propos antisexistes assez radicaux. Bikini Kill a inspiré de nombreux groupes punk féminins dans les années 90. Donc voilà, pour l'histoire, le groupe a été créé à l'université d'Evergreen par Kathleen Hanna, Kathy Wilcox, Toby Vail, entre autres. Voilà, elles sont rejointes par Billy Karen, qui jouait dans un autre groupe, donc pour former le groupe Bikini Kill, qui serait voilà, le nom Bikini Kill, un fanzine, un petit journal, là où elles travaillaient, toutes ces filles-là. Elles ont récupéré le nom du journal. Enfin, il y a plusieurs versions.
Ça se faisait pas mal à l'époque, des petits journaux comme ça à l'arrache, où ils mettaient des... Voilà,
un petit peu politique aussi.
Ouais, très politique même.
Et donc, elles revendiquaient le fait d'être dans la lignée des groupes dont on a parlé avant, et que pour elles, c'était la suite de l'histoire, mais que... il fallait arrêter d'être gentil vraiment, et il fallait rentrer dedans, et musicalement, ouais, voilà, ça s'entend tout de suite.
C'est
ça.
Du punk, ben, notamment l'une
des membres.
Ouais. Anna travaille parallèlement comme stripteaseuse. Voilà, ouais. C'est elle qui écrit la plupart des chansons et cherche à ancrer le groupe dans un environnement féminin, c'est-à-dire qui incite les filles, par exemple, à venir près de la scène pendant les concerts. Voilà, un exemple, quoi. Voilà. Girl power.
Et puis pour parler du côté people, qui est toujours très intéressant, la batteuse a eu une histoire avec Kurt Cobain. Donc il y avait de la communication néanmoins avec avec les hommes.
Hein. Mmh. Oui, mais c'est en plus, enfin, ce qui peut être un peu étonnant, c'est que voilà, une d'entre elles était stripteaseuse, mais d'un autre côté, tu revendiques, t'es antisexiste, etc. C'est assez. T'as une ambivalence, enfin, je sais pas comment
dire.
Mais c'est dans l'idée aussi.
Schizophrénie là-dedans, quoi, je sais pas, non.
C'est dans l'idée aussi.
Enfin, quoique, tu me diras, les féministes ou les prostituées, elles revendiquent ça des fois.
Bah, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire.
On fait ce qu'on veut de son corps.
Voilà, c'est ça. Propriétaire.
C'est la réappropriation du corps de la femme en l'exhibant. Enfin, c'est une théorie philosophique que certaines féministes adoptent.
Ouais. Et en fait, c'était un choix personnel et non pas. Elles n'étaient pas obligées d'y aller, quoi.
Ouais.
Déjà, c'était une affirmation de soi, ouais.
Tout à fait, ouais. Donc voilà, ils ont sorti plusieurs disques. Que dire,
bah, écoutez, bon, on va les écouter.
Voilà, on va les écouter. Donc on écoute le titre Rebel Girl.
Older hand up so high, clapping, I wanna feel good.
ben voilà, on était en train d'écouter les Bikini Kills. Là, on a monté quelques
assez
marches.
Assez touchant, hein. Quand même. Ouais, c'est clair, par rapport aux Supremes au début. Par... la Supremes voilà, au début.
Voilà, et donc, ça va nous permettre de rebondir sur d'autres thématiques, sur d'autres émissions, notamment sur le versant politique avec les Pussy Riot, sur le mouvement punk qui était avant, et elles se sont largement inspirées des groupes punk. Donc il y a matière à dire encore sur ce genre de musique radicale.
Et on abordera tout ça dans les prochaines émissions. Surtout restez connectés sur Studio Zef, hein, voilà, tout au long de la semaine.
Mais bon, c'est l'heure néanmoins de laisser la parole à notre copain Ben, qui a une petite chronique à nous délivrer. Action.
Vous êtes toujours là, les filles? Peggy, toujours là? Peggy est toujours là. Maintenant, Peggy, nous allons parler de l'amour. Donc voilà, donc parler de l'amour, c'est trouver le prince charmant, le crocheter et éviter à tout prix qu'il se fasse la malle. Telle est la mission confiée aux filles dès leur berceau. D'ailleurs, la sexualité apparaît très tôt comme un simple outil pour harponner M. Wright. Il convient de museler tout désir sexuel pour être à même de conserver sa sexualité pour le bon. Rappelez-vous les contes de fées, Blanche-Neige, une fille qui passe du temps avec une bande de bûcherons asexués en entendant qu'un beau mec la délivre de son désir étouffant. Cendrillon, une fille qui découvre son pouvoir de séduction dans un bal où tous les hommes la déshabillent du regard et qui s'offre à l'un d'eux, sous prétexte qu'il a ramassé sa tatane. Réponse ! Une fille qui cède aux vacances d'un inconnu qui l'espionnait depuis des mois, entrée par effraction chez elle. Très tôt, avant même qu'il ne pose la moindre question sur le sujet, on apprend qu'aux filles qu'elles doivent présenter leur sexualité pour celui qui a forcément un garçon qui les aimera. En somme, leur désir sexuel n'est pas quelque chose qu'elles ont pour elles, mais qu'elles devront léguer à quelqu'un. Et ça se mérite. La sociologue française Caroline Moulin a passé au peigne fin à la presse pour jeunes filles. Il en ressort un discours omniprésent. Les filles ne doivent pas céder trop facilement aux demandes des garçons, privilégier l'affection à la sexualité, s'assurer de la légitimité du sentiment amoureux avant le grand saut. Les filles toujours là, donc Peggy est toujours en notre compagnie, donc Peggy est toujours là, et donc on va raconter une histoire, donc c'est une histoire de vie. L'histoire de Marie, c'est une petite enfant qui a 10 ans, et moi c'est une histoire qui m'a beaucoup touché, donc je vais vous raconter son histoire. Donc Marie, elle a 10 ans, et Marie, elle voit rouge très souvent. Son père, il est terrassier dans un quartier, dans le quartier du Soleil à Saint-Étienne, et ce soir-là, il est encore rentré tard, toi. En chemin, il est tombé sur un gars de la mine et il les a suivis au café. Il est rentré hagard, comme très souvent, très imbibé d'alcool, réclamant une soupe d'un ton cinglant. Sa maman, excédée, s'est exécutée en maugréant. Elle lui dit « Ce n'est pas en buvant ta paye tous les soirs que nous pourrons élever les enfants. » La main noueuse du père s'est abattue une nouvelle fois sur le visage de sa femme. Marie, de ses 10 ans, s'est interposée, en vain. Le rouge de ses joues se mêle désormais au violacé des coups. Sa mère blessée a bien tenté de lui expliquer. On ne contredit pas le père de famille. On n'humilie pas celui qui rampe chaque jour pour rapporter un maigre pécule, épuisant ses forces au jour la journée. Exploité par les compagnies de chemin de fer qui l'emploient à sa guise, selon les besoins des chantiers ferroviaires, son unique fierté, c'est sa famille, sur laquelle il règne en maître. Et il n'est pas un mauvais homme, il l'a reconnu alors qu'elle, Marie, est née d'enfant naturel. La colère n'est pas passée. Pieds nus dans la poussière noire du soleil, Marie est allée dormir chez Henriette, sa camarade d'école. Le lendemain, elle a chapardé un peu de pain et un fruit dans une maison laissée imprudemment couverte. Les parents s'adressent alors à l'écrivain public pour solliciter une mesure de correction paternelle auprès du président du tribunal. Il est dangereux que plus tard, qu'elle fasse le déshonneur de ses parents et soit nuisible à la société. Les voisins s'acquittent également d'une lettre comminatoire, signant de 14 noms, pour demander l'enfermement de la fillette. C'est la prison départementale qui accueille Marie pendant un long mois de détention au quartier des femmes. Promiscuité, souillure, humiliation est un régime sec, puisque c'est l'État et non ses parents indigents qui financent son séjour. Brisée, Marie est de retour à la maison familiale. Pour elle, ce sera désormais le couvent de la Providence qui embauche les filles perdues de la parsementière.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudioZef91.1 ou à podcaster sur StudioZef.fr. À très bientôt.